Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter.
Oui, un peu comme notre personnage central qui vous aurait dit oui. Bah, qu'est-ce que c'est cet accoutrement, Mathieu? Je sais que vous faites la radio, mais c'est pas une raison pour venir en pyjama. Par respect, au moins pour les personnes présentes dans le studio, ce suite est à vomir. C'est digne du monde. J'ai jamais vu quelqu'un avec un aussi mauvais coup. Et pourtant, je présentais l'Eurovision. Bonjour quand même, Mathieu.
Bonjour, Stéphane Karl Bern. Bonjour à tous. Oui, chers auditeurs, vous l'entendez, Stéphane est un peu excité aujourd'hui puisque notre thème va lui permettre de s'adonner à son hobby préféré, imiter Karl Lagerfeld. Tout tourne autour de lui cet après-midi, hein, Stéphane?
Oui, tout à fait, Mathieu. Karl, toujours, tu m'intéresses. C'est le thème que nous avons choisi pour rendre hommage à celui qui nous a quittés il y a 2 ans déjà. On vous raconte le regretté Karl Lagerfeld à travers ceux qui l'ont côtoyé de près. D'abord, le couturier Pierre Balmain, le premier qui a repéré Karl Lagerfeld lors d'un concours, le premier chez qui Karl Lagerfeld a commencé. Puis, celui qui fut le seul et unique amour de sa vie, il s'appelait Jacques de Bachère. Si leur amour était platonique, les nuits étaient agitées dans le Paris de la fête et des excès. Enfin Mathieu, il vous reviendra évidemment l'honneur et la responsabilité d'évoquer la personne qui a le plus compté dans la vie de Karl, c'est Choupette.
Et oui Stéphane, car si Pierre Balmain et Jacques de Bachère ont bien connu Karl Lagerfeld, je ne pense pas qu'il soit allé jusqu'à passer des soirées entières sur ses genoux à se laisser caresser, ou alors je n'ai pas eu les bonnes infos. Choupette, elle, adorait son maître et comme elle a hérité, elle est aujourd'hui la chatte la plus riche du monde.
Un portrait que vous dresserez sous l'œil amusé, mais vigilant, j'en suis sûr, de celui qui a aussi bien connu Karl Lagerfeld puisqu'il a été à ses côtés durant les 20 dernières années de sa vie. Son homme de confiance, son homme de main, également mannequin, Sébastien Jondot, qui publie « Ça va, cher Karl ?» Il viendra nous en parler dans la dernière partie de l'émission.
Et eux nous accompagnent depuis plusieurs mois déjà. Ils sont nos chroniqueurs de confiance, à commencer par Clémentine Portier-Keltenbach qui nous entraîne dans les coulisses, dans l'intimité de l'histoire. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs. Ah, c'est bien ça, homme de chroniqueur de confiance. Merci.
C'est ce que vous êtes.
Je suis honorée. Alors on va parler mode bien sûr aujourd'hui. Et en principe, la mode a pour vocation d'embellir, de sublimer, de distinguer. Car Lagerfeld, c'est une silhouette. La lavalière, les cheveux talqués, les lunettes noires. Ce qu'on cherche, on a tendance à le penser, c'est à être plus beau, pas être plus moche.
Ah oui.
Or, sous le directoire, ce que l'on qualifiait d'incroyable, ou plus exactement les incroyables, cherchait au contraire à sans les dire. Voilà, les incroyables ou l'art de sans les dire, ce sera mon sujet du jour.
Mmh. Mais qui étaient ces gens?
C'était les bobos de l'époque, en fait.
Ah ben c'est ça, les hipsters
oui.
Ah, et bien justement, un hipster est parmi nous. Un incroyable, lui aussi, David Castello-Lopez. Chaque jour, David, vous nous entraînez aux origines d'une invention, d'un objet du quotidien qu'on utilise par définition tous les jours. Aujourd'hui?
Tout à fait, c'est le sucre en morceaux. Et je pense que le rapport avec Karl Lagerfeld, c'est qu'il y a une sorte d'élégance évidente.
De l'objet sucre en morceaux.
Voilà.
Effectivement. Enfin, Stéphane, sachant que là-haut, votre idole Karl Lagerfeld nous observe, vous aurez peut-être à cœur pour une fois de vous surpasser dans Bern to be alive. Ce jeu cruel dont les règles évoluent au gré de mes envies. Je sais que ça ne vous choque pas car vous pratiquez ce genre d'unilatéralisme dans votre vie privée.
L'infidélité est admise.
Mais c'est une autre histoire qui nous amènerait trop loin. Pour l'heure, découvrons notre premier personnage qui a côtoyé de près Karl Lagerfeld, qui lui a même donné sa chance. Stéphane nous raconte Pierre Balmain.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Toc toc toc, c'est Karl, ouvrez-moi. Quand un aspirant couturier rencontre celui qui va lui apprendre le métier, c'est un récit sur mesure que nous propose Stéphane Bern avec Pierre Balmain, l'homme qui a repéré et embauché en premier Karl Lagerfeld. Et l'histoire a prouvé qu'il a plutôt bien fait.
C'est un manteau de lainage jaune à l'encolure droite, imitant une ceinture et au dos décolleté en V. Il est original, parfaitement taillé et il s'apprête à lancer la carrière de Karl Lagerfeld. Nous sommes en novembre 1954 et le jeune modéliste vient de remporter le concours du secrétariat international de la laine. Dans le jury, le tout jeune créateur d'une vingtaine d'années n'a pas échappé aux yeux d'un connaisseur déjà célèbre dans le monde de la mode, Pierre Balmain. En 1954, la maison Balmain a 10 ans. 10 ans déjà, ou 10 ans seulement, car une petite décennie a suffi à son créateur pour en faire l'un des plus grands acteurs mondiaux de la haute couture. Pierre Balmain est né en 1914 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Enfant, il joue avec des poupées de papier de soie qu'il habille comme des mannequins, minuscules chaussures taillées dans des bouts de cuir et robes coupées dans des échantillons de tissu. La mode le fascine, mais pour rassurer ses parents, il choisit un domaine d'études plus sérieux, l'architecture. Un dimanche de 1932, le jeune Savoyard découvre ébloui la capitale française où il s'installe pour suivre les cours de l'école des Beaux-Arts. Il a 18 ans et l'ambition avouée de conquérir Paris. Alors, dans son costume réalisé par le meilleur tailleur de Chambéry, Pierre Balmain démarche les plus grands créateurs. Il vend d'abord 3 dessins pour 90 francs à Robert Piguet, ancien assistant de Paul Poiret et prince de la mode des années 30, comme il était surnommé. Recommandé par ses soins, Balmain entre ensuite au service d'Édouard Molineux, autre grand couturier anglais, celui-là, du moment. Continuez vos études d'architecture et travaillez ici l'après-midi. Dans un mois, je vous dirai si vous devez abandonner l'un ou l'autre. Très vite, Pierre Balmain arrête les Beaux-Arts. Au contact de son maître, il apprend à construire parfaitement un vêtement et à en retirer tout ce qui peut l'être pour ne garder que l'essentiel ou comment faire passer un message en peu de mots. En 1941, après 2 ans de mobilisation sur le front, Balmain entre chez Lucien Lelon, encore un très grand nom de la couture, et lui confie la responsabilité de l'entièreté de ses collections avec l'aide d'un autre jeune homme fraîchement engagé, un certain Christian Dior. Chez Lelon, Pierre Balmain impose déjà son style et son talent, en créant notamment une robe toute simple de crêpe noire, baptisée Petit Profit, et qui rencontre un franc succès auprès des clientes. En 1945, Pierre Balmain n'y tient plus, il lance sa propre maison. La période n'est pourtant pas facile. La guerre est certes finie, mais rien ne fonctionne normalement. Les tissus sont rationnés, les 3 étages que le couturier vient de louer rue François 1er à quelques pas des Champs-Élysées sont immédiatement réquisitionnés par le ministère de l'Économie. Les 16 couturières se replient alors sur un seul étage et occupent toutes les pièces, y compris la cuisine. Pour pallier les incessantes coupures d'électricité, on s'éclaire à la lampe à gaz. Une des premières robes confectionnées tout en tulle prend feu le jour de la livraison. Furieuse, la cliente annule toute sa commande, soit 5 robes déjà réalisées, ce qui menace de couler l'entreprise naissante. Pourtant, le succès ne se fait pas attendre. Gertrude Stein, l'influente écrivaine et collectionneuse d'art américaine, consacre à Balmain le seul article qu'elle ait jamais écrit sur la mode. Grâce à elle, la presse anglo-saxonne s'intéresse tout de suite à la marque. Dès 1945, le Time publie une photo d'une robe de la maison. La même année, Cecil Beaton en photographie un autre modèle pour Vogue. En 1946, Alice Toklas, femme de lettres et compagne de Gertrude Stein, loue la renaissance de l'élégance parisienne dans un texte de présentation de la collection Balmain. Le portfolio est intitulé « New French Style », l'expression fera date. Pierre Balmain rompt avec le principe de mode fonctionnel pour renouer avec un style très féminin et sophistiqué. Les épaules sont structurées, la taille est marquée et les hanches légèrement accentuées. Les jupes évasées commencent à se raccourcir. Leur coquetterie assumée font bientôt de la maison l'incarnation de l'élégance à la française. La jolie madame de Pierre Balmain, nom de la collection de l'hiver 52, dévoile des modèles raffinés à la coupe impeccable dans des matières confortables en jersey, en flanelle ou en soie et dans les tons sombres. Pierre Balmain aime le noir. C'est, selon lui, la couleur du chic et de la jeunesse. Le soir se prête à davantage d'extravagance, avec des rouges et des bleus profonds, des froufrous de tulle et de dentelles brodées, et déjà des effets de contraste et de transparence. Les activités mondaines ont repris, l'heure est à la fête, la vie sourit aux audacieuses. C'est au cours de cette décennie, de tous les succès, que la maison Balmain accueille le tout jeune Karl Lagerfeld. Il a quitté son Allemagne natale 2 ans plus tôt. Auprès de Monsieur Balmain, Karl est assistant modéliste et fait ses premières armes. Il y restera plusieurs années avant de prendre la direction artistique de la maison Patou, puis celle de Chloé. Mais au contact de son mentor, Karl Lagerfeld ne va pas apprendre que la couture. Car Pierre Balmain, s'il est un technicien hors pair, est aussi un subtil homme d'affaires. Karl va apprendre comment on fait des robes et comment on fait de l'argent. Dès sa première collection, Pierre Balmain lance un parfum, Élysée 6483, hommage au numéro de téléphone de son salon de couture. Viennent ensuite Vent Vert et Jolie Madame. Le parfum est comme l'émotion qui doit rester après le passage d'une dame élégante. Il est aussi, pour tous les grands couturiers, un moyen de remplir les caisses. De Lucien Lelong, Pierre Balmain a également appris à élargir son offre. En 1934 déjà, le couturier avait proposé une gamme de prêt-à-porter. 80 modèles disponibles en 5 tailles pour 2 fois moins cher que sa haute couture. En 1954, Balmain lance à son tour une collection de prêt-à-porter. L'objectif est d'attirer une clientèle plus importante et surtout plus jeune. Et pour la séduire, quelles meilleures ambassadrices que les stars de cinéma. Balmain les habille à la ville comme à l'écran. Katharina Hepburn, Marlène Dietrich, Josephine Baker ou la très glamour Sophia Loren font partie de ses clientes fidèles. En septembre 1954, il confectionne la robe de mariée d'Audrey Hepburn, une merveille du genre, jupon évasé à mi-mollet, taille cintrée, col montant et manches bouffantes, complétée par de longs gants blancs. L'actrice a acquis une célébrité mondiale l'année précédente avec la sortie du film Vacances romaines, pour lequel elle a remporté un Oscar. Un très joli coup de pub. En France aussi, Pierre Balmain a ses représentantes, des personnalités très en vue comme Brigitte Bardot, Dalida, Juliette Gréco. Une telle notoriété est précieuse pour la maison de couture, bien avant les sœurs Kardashian qui ne jurent que par l'actuel directeur artistique de la marque, Olivier Rousteing, il existe déjà une Balmain Army, chargée de promouvoir la griffe à travers le monde. À la fin des années 60, Pierre Balmain dessine les tenues des hôtesses des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble, du personnel de bord de la compagnie Singapore Airlines, donnant à voir la haute couture à un public plus large. Ce que fera Karl Lagerfeld en signant des collaborations avec des marques très grand public comme H&M ou Coca-Cola. Le décès de Monsieur Balmain en 1982 à seulement 68 ans est un coup dur pour sa maison. Mais elle lui a survécu et reste aujourd'hui, grâce à son action, l'un des grands noms du luxe dans le monde. Karl Lagerfeld en aura été un digne héritier.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Pierre Balmain, nous sommes avec celui qui fait perdurer la marque, tout à la fois dans sa modernité, sa différence et son succès, le directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Olivier Rousteing, merci d'être avec nous cet après-midi pour parler de celui qui est présent dans votre quotidien, mais que vous n'avez pas connu en vrai, qui est Pierre Balmain. Il est mort en 82 et vous êtes né en 85. Quand vous entendez sa vie, que je viens de résumer en quelques mots, qu'est-ce que ça évoque pour vous la vie de Pierre Balmain ?
Pour moi, la vie de Pierre Balmain, c'est évidemment une vie pleine d'aventures, une vie à la fois pleine de secrets et à la fois pleine de révolutions, aussi bien personnelles que professionnelles. C'est quelqu'un, en fait, qui avait une vision très claire de ce qu'il voulait dans la mode et à la fois pas forcément, parfois même très politique. Donc, c'est assez intéressant en termes de designer aujourd'hui de devoir recomprendre ses réflexions, ses pensées et essayer de faire perdurer sa vision.
Si vous aviez pu le rencontrer, lui poser une seule question, qu'est-ce que vous lui auriez demandé ?
Pourquoi avoir démarré sa marque après-guerre ? Comment il a réussi à y penser et à se dire, après la guerre, je créerai la maison Pierre Balmain ?
Est-ce qu'un couturier emporte ses secrets avec lui ou est-ce qu'avec le temps, il y a un héritage qui se transmet quelque part dans les idées ou la façon de fabriquer ?
Je pense qu'un couturier a toujours ses secrets. J'ai beaucoup cherché dans l'histoire des choses de Monsieur Balmain, aussi bien sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sur tout ce qu'il avait créé dans la maison, même en termes d'archives. Et c'est parfois en trouvant une robe avec juste un nom qu'on se rend compte peut-être que derrière ce nom, il y avait une romance, il y avait des envies, une vision. C'est rarement explicite. C'est le temps qui rend tout explicite. Et c'est ça qui est assez excitant quand on retourne dans les archives, en fait, c'est d'essayer de comprendre ces secrets qui sont pas forcément dits.
Et vous-même qui aimez raconter des histoires, Olivier, vous plongez souvent dans les archives de la maison Balmain ?
Ah oui, tout le temps. c'est pour moi, je suis très connu pour ma culture pop, pour habiller mes célébrités, être très présent dans la musique, etc. d'aujourd'hui, avec mon âge, etc. Mais c'est vrai que c'est mon, je sais pas si on peut dire mon péché mignon, mais c'est vraiment cette envie de me poser dans les archives, aussi bien que ça soit par internet que aller à Tours où il y a énormément d'archives de Monsieur Balmain. C'est pour moi un plaisir de me poser dans un silence total et de regarder des pièces qui datent de 1946, de 1947, c'est un peu un retour dans le temps qui est assez frappant et assez magique en fait.
Ah oui, c'est un bon retour aux sources. Aujourd'hui, alors évidemment, avec la crise mondiale, impacte forcément le milieu de la mode. Pourtant, en octobre dernier, vous avez tout de même tenu à organiser un défilé en vrai pour présenter votre collection printemps-été 2021. Un défilé dans lequel, avec émotion d'ailleurs, Pierre Balmain s'est invité. Sa voix a résonné. Écoutez.
Si je laisse une trace plus tard. Ça sera sans doute parce que tout au long de ma carrière, j'aurais essayé de maintenir la prééminence du goût et de l'élégance française. C'est que je crois que, au fond, je sais, je possède cette clé d'une élégance française, d'une élégance mesurée, cartésienne, d'une élégance qui fait fi de l'effet qui a été la règle d'or de toute ma vie.
Vous avez rendu hommage à Pierre Belmain avec une collection inspirée des années folles. Dernière preuve, s'il en fallait, qu'il sera toujours là, finalement.
Il sera toujours là, en fait. Je pense que la phrase la plus importante de tout ce discours, c'est, au-delà de l'élégance française, c'est « il veut laisser une trace ». Et il faut savoir que quand on est un directeur artistique ou quand on est un créateur, en fait, on vit pas dans notre temps parce que tout ce qu'on crée, c'est pour le futur. Que ça soit 6 mois, que ça soit 1 an, parce que les saisons, en fait, c'est toujours 6 mois en avance. Donc finalement, on n'est jamais réellement dans son temps, inscrit dans son temps. Mais la recherche qu'on a tous quand on est un créateur, c'est de laisser une trace, en fait. Et il parle souvent de sa vie avant de partir, avant de mourir. Il parle beaucoup de laisser une trace et de laisser, en fait, quelque chose au monde. Et je pense que c'est finalement la clé pour tout directeur artistique, c'est de se dire qu'on sera pas oublié, en fait. Et je pense que Monsieur Balmain a réussi le faire par rapport à ses œuvres.
Et d'ailleurs, bel hommage, puisque le monogramme PB, imaginé par Pierre Balmain lui-même, est très présent dans cette nouvelle collection. On dit toujours que la mode, c'est un éternel recommencement. C'est vrai que le temps passe, mais le passé inspire toujours la mode d'aujourd'hui.
Oui. En plus, on est dans une certaine quête toujours de ce qu'on appelle les millennials, de ce côté futur, de quoi sera fait le futur. Mais je pense que pour comprendre le futur, il faut déjà comprendre le passé. C'est plus un côté historique qui nous fera comprendre comment avancer au mieux. Et donc oui, en effet, pour moi, la mode est un éternel recommencement, mais avec des nouvelles générations, avec des nouvelles idées, et on s'inscrit dans un nouveau type de temps.
Un nouveau souffle aussi. Alors, on continue à parler de nos personnages qui ont côtoyé Karl Lagerfeld de près, de Pierre Balmain en particulier, avec notre invité Olivier Rousteing sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Karl, toujours, tu m'intéresses. Ils ont côtoyé Lagerfeld de près. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre avec Stéphane. Et on parle du couturier Pierre Balmain avec notre invité Olivier Rousteing, directeur styliste et directeur artistique de la marque Pierre Balmain. Alors Olivier, vous êtes directeur artistique de Balmain depuis 2011. Vous y êtes entré en tant que responsable du studio 2 ans plus tôt. Vous avez 23 ans. Lorsque Lagerfeld débarque chez Balmain, qui le repère lors d'un concours, il a 20 ans. Encore qu'on ne sait pas vraiment quelle année il est né. Mais c'est une chance d'accéder si jeune à une si grande maison. C'est une chance qu'il faut savoir saisir. J'imagine qu'il faut vraiment pas se planter, sinon en même temps ça peut être un tremplin phénoménal, mais ça peut être aussi fatal.
Totalement.
Vous avez eu chaud.
Non, j'aime bien en plus ce côté fatal et phénoménal à la fois. C'est très bien, j'aime bien. Oui, c'est totalement ça. C'est en même temps, je pense que je me suis pas réellement rendu compte à 23 ans de ce qui allait m'arriver. En fait, finalement, je pense que c'était mon premier défilé où je suis sorti sous les spotlights et je me suis dit là, ma vie va changer. Parce que vous savez, en fait, on n'a pas une école de mode qui vous apprend à être un directeur artistique. On a une école de mode qui vous apprend à être un parfait styliste avec la découpe, le savoir-faire, la technique, le talon qui casse pas, etc. Ok, mais en fait on vous apprend pas à devenir un directeur artistique, avoir une vision plus globale et affronter les critiques de la presse, affronter le côté public de la chose. Donc finalement ça a été un parcours assez particulier pour moi, parce que c'est vrai que j'ai eu accès à une maison de mode luxe française en étant directeur artistique aussi de couleur à l'époque, parce que c'est vrai que je voulais mentionner. Donc il y a eu pas mal d'aventures autour de mon parcours, mais c'est vrai qu'aussi cette jeunesse à 23 ans, c'était un petit peu je savais pas trop à quoi j'allais être, à quelle sauce j'allais être mangé, de manière vulgaire.
Oui, mais il y a une différence, Olivier, entre créer sa propre marque, vous auriez pu créer la marque Olivier Rousteing.
Ça viendra peut-être.
Oui, mais bien sûr. Et puis, d'un autre côté, prendre la direction artistique d'une marque qui est la marque de l'élégance française. Il faut rappeler que Pierre Balmain habillait toutes les reines du monde. Enfin, tout le monde s'habillait, toutes les femmes élégantes s'habillaient en Balmain. C'est une griffe célèbre. C'est pas la même chose, hein.
C'est un grand challenge parce qu'il faut savoir que Monsieur Balmain habillait Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Josephine Baker, toutes les reines dont vous parlez, Dalida. Donc finalement, il s'inscrivait aussi dans un type de diversité de femmes très très forte. Je voulais vraiment que cette marque renaisse aussi de cette diversité qui pour moi était importante et qui faisait de Monsieur Balmain une force à l'époque. Parce que habillé de Audrey Hepburn à Brigitte Bardot en passant par Josephine Baker, finalement c'est ce que je fais aujourd'hui.
Mais c'est toutes les femmes par, en fait.
Toutes les femmes, tout type de corps, tout type de
background. Style de vie, oui.
Voilà, tout type de style de vie. Donc finalement, Balmain aujourd'hui, c'est ça. Dans un, évidemment, on est témoin de notre propre temps. Donc pour moi, passer de Beyoncé à Cindy Crawford, à Kim Kardashian, à Rihanna, en passant par notre première dame de France, je trouve que c'est ça la beauté de la maison et c'est ça qui fera que la maison va s'inscrire dans un temps et dans ma génération.
Mais Olivier, tout à l'heure, on entendait Pierre Balmain dans cette archive qui disait qu'il avait la clé du style français, de l'élégance française. Est-ce que vous, quand vous dessinez une robe, par exemple, parce que tout le temps, vous vous dites, est-ce que ça, Monsieur Balmain aurait cautionné, ou est-ce qu'à un moment, il faut quand même s'affranchir de cette tutelle et vous vous dites, je crée ce que je veux. Est-ce que toujours, c'est dans un coin de votre tête, est-ce que ça correspond à cette élégance française telle que lui l'a concevée, ou est-ce que vous dites, moi, je suis Olivier Rousteing, maintenant, c'est moi la star, est-ce que l'élégance française, c'est ce que je décide qu'elle est, en gros
Oui, je pense que ça serait plutôt la seconde.
Ah, voilà.
Non, je pense vraiment que ce principe de l'élégance française a évolué avec notre temps, avec nos mots, avec nos mentalités. C'est évidemment un nouveau type d'élégance. J'ai vraiment poussé la maison dans son côté le plus international possible, en pensant à une élégance non pas française, mais internationale. Et ça, c'est quelque chose d'important à mentionner parce que c'est vrai que, l'époque de Monsieur Balmain était un moment où la globalisation était totalement différente d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est important de garder son côté français, mais sans enclaver la marque dans un style très fermé. Et c'est pour ça que c'est vraiment ça ma force. C'est aussi une autre génération, c'est de penser à un monde plutôt qu'à seulement Paris.
Vous n'avez pas connu évidemment Pierre Balmain, mais vous avez évidemment côtoyé Karl Lagerfeld. C'est d'ailleurs le lien entre tous nos personnages dont nous parlons aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Il y a un moment particulier avec lui qui vous a marqué ?
Oui, ma première rencontre avec lui, je pense, quand c'était à une soirée, et il m'a vu, vous êtes le designer de Balmain. Je lui dis oui. Donc déjà, ne serait-ce que d'avoir la possibilité d'avoir accès à Monsieur Lagerfeld, à Karl, c'était déjà un rêve d'enfant. Donc sa première fois, quand la première fois où je l'ai vu, qu'il m'a dit, vous êtes le designer de Balmain, je lui dis oui. Il m'a dit bonne chance.
C'est flippant.
Et donc non, mais c'était avec toute sa gentillesse, mais tout en ayant ce côté à la fois amusant et après c'était la première discussion et j'ai eu la chance de le côtoyer dans d'autres situations où j'ai compris ce que cela voulait dire.
Est-ce que vous auriez pu, est-ce que vous auriez aimé travailler avec lui?
Ah oui, je pense que j'aurais adoré travailler avec lui. Je pense que quand on rencontre Karl Lagerfeld, c'est au-delà de vouloir travailler avec lui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous inspire. C'est les quelques mots qu'il puisse dire ou les phrases sont inspirantes. Après, en effet, le côtoyer, c'était une chose, mais pouvoir après travailler avec lui, ça aurait été un rêve.
Oui, il y a une phrase de Karl que j'aime beaucoup.
Vous n'allez pas faire l'accent de Karl.
Non, je vais le faire sans accent pour une fois.
S'il vous plaît.
Mais il disait, je veux bien être gentil, mais je veux pas que ça se sache.
Ah, mais ça le résume bien,
oui,
alors.
C'est... Je trouve, oui.
Un faux méchant.
Karl Lagerfeld s'est fait repérer lors d'un concours qu'il remporte. C'était le concours du secrétariat international de la laine en novembre 54. Un joli nom. Ce concours n'existe plus, mais vous restez attentif aux jeunes qui veulent se lancer, qui veulent faire votre métier. Et d'ailleurs, vous avez fait œuvre utile, je le rappelle, parce que moi j'ai été bouleversé par le film que vous avez fait, et ça m'a profondément touché. C'est la transmission aussi, Olivier.
Je pense que la transmission, c'est synonyme de création, parce qu'on ne peut pas créer sans transmettre. C'est pour moi la condition sine qua non de mon travail. Donc en effet, le documentaire que j'ai pu faire sur ma vie, c'était une façon, comme vous dites, de transmettre une histoire, un parcours de vie, un message d'espoir pour toute une génération. Et donc finalement, pour revenir à la question d'avant, quand vous disiez voilà, à un moment donné, il faut s'affranchir du designer d'avant, du designer de l'époque. C'est-à-dire Monsieur Balmain, il avait une vie personnelle qui a eu beaucoup d'influence sur ses œuvres, et j'ai aussi ma vie personnelle qui influence mes œuvres. Donc finalement, aujourd'hui, oui, je transmets un peu ce que j'ai en tête et ma vision par rapport à un parcours que j'ai pu avoir d'enfant adopté, à moitié éthiopien, à moitié somalien, français, et vouloir un peu transmettre aussi ce parcours-là dans mes propres créations.
Mais l'un de vos objectifs, et on le sent, c'est que tout d'un coup, vous redonnez vie à cette maison. C'est comme si vous sortiez Pierre Balmain lui-même de l'oubli, en quelque sorte.
Quand j'étais petit, j'entendais très peu le mot Balmain, en fait. J'avais ma grand-mère qui portait peut-être le parfum ivoire, mais il n'y avait pas forcément cette force que aujourd'hui Balmain a quand on entend le mot Balmain dans des chansons de rappeurs, de pop culture. Donc en fait, mon but, c'était de me dire que les nouvelles générations, quand elles vont naître, elles se rappelleront de Balmain comme moi je l'ai inscrit dans le temps de mon temps. Et c'était finalement un parcours pas forcément gagné, mais finalement aujourd'hui, quand j'ai mon petit cousin qui a 11 ans, veut une sneaker Balmain, un t-shirt Balmain, ou je pense que c'est un pari réussi.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous.
Olivier.
Je crois que Mathieu et moi, on est très admiratifs de votre parcours. Voilà, bravo.
Merci beaucoup.
Et merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi, Olivier Rousteing.
Je vous remercie.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires à peine croyables. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. À peine croyables, surtout aujourd'hui, parce que vous nous parlez, Clémentine, des incroyables, ces dames sous le directoire.
Elles avaient l'accent créole ?
Oui, vous le faites super bien, oui.
Parce qu'en fait, on ne prononçait jamais les R.
Incroyable.
Il fallait éviter les incroyables et les merveilleuses. Parce
et pourquoi
que
il fallait éviter les R ?
À cause de la révolution, à cause du roi, à cause de tous ces mots qui fâchaient et qui avaient vu des têtes tomber, donc on ne prononçait plus les R.
Et oui,
mais vous vous souvenez, Mathieu, quand
non,
vous avez...
Non, il n'était pas né.
Non, à des incroyables et des merveilleuses, mais quand je vous ai parlé des Azous, je vous racontais eux s'exprimaient avec l'accent anglais parce qu'il y avait une passion pour tout ce qui était anglo-saxon pendant les années d'occupation.
Donc là, tout le monde parlait créole à Paris.
Ouais, non, parce que ça concernait une rare élite parisienne, ce phénomène. C'est 1794, au lendemain de la Terreur, et donc ce courant de mode a pour particularité son extravagance, son étrangeté, voire sa laideur en particulier pour les hommes. Et qui sont les incroyables ? Ils se recrutent dans la jeunesse dorée qui rejette la révolution et le jacobinisme. Ce sont des jeunes qui adhèrent aux valeurs d'ancien régime et donc qui sont un petit peu, si vous voulez, l'incarnation des victimes aristocrates. Bon. Et d'ailleurs, les figures de proue des incroyables sont assez peu connues. C'est le chanteur Gara ou un certain Eleviou. Vous voyez, alors que les femmes, les merveilleuses, Madame Tallien, Madame Hamelin, Madame Récamier, Joséphine de Beauharnais, tout le monde les connaît, ces figures-là. Du côté des hommes, c'est pas très connu. Et d'ailleurs, c'est pas aussi étonnant que ça, parce que c'est vraiment pas beau la mode pour les incroyables.
Alors, ça consiste en
donc,
quoi ?
L'incroyable, il veut, son objectif, si vous voulez, c'est de se donner les apparences d'un être disgracié de la nature et du sort. On peut vraiment parler d'un art de sans les dire. Alors, quelle est sa panoplie, si vous voulez ? Il faut un habit carré, avec des plis absolument partout, très mal taillé pour donner l'impression que vous êtes bossu.
On va chez un tailleur et on lui dit taille-moi mal.
Voilà, c'est ça. Il faut donner l'impression d'être contrefait. Vous portez des bas rayés ou blancs avec les jarretières qui flottent. Bon, ça fait un peu négligé, c'est pas très beau. Des chaussures pointues. Alors, c'est surtout dans la coiffure que l'incroyable se distingue. Vous faites couper les cheveux au rasoir, pas au ciseau, parce que le rasoir, c'est le rasoir national, c'est la guillotine. Ça fait des espèces de mèches tout à fait infâmes, comme si on venait de vous faire la dernière toilette du condamné. Vous portez des cadenettes, c'est-à-dire des espèces de longues tresses. Et sinon, vous vous mettez avec un peigne, vous relevez les cheveux derrière la nuque.
En chignon.
Comme ça, la lame de la guillotine peut passer en chignon. C'est un truc comme ça. Et tout doit être... Il faut cultiver la disproportion. Énorme énormes lunettes ou binocles devant les yeux, comme si vous étiez myope, que vous n'y voyez rien. Énorme cravate verte dans laquelle votre menton et votre cou est complètement engoncé, donc on a l'impression que vous n'avez plus de...
En plus, c'est pas
confortable. Plus de cou. Immense anneau passé dans les oreilles, ce qui est une chose qui n'est pas du tout une mode masculine avant la Révolution. Les chapeaux, pareil, bicorne ou énorme chapeau claque, tout est gros. Et alors, la caractéristique, vous vous souvenez que le Zazou ne se déplace jamais sans son parapluie, eh bien, l'incroyable ne se déplace jamais sans un affreux gourdin tourné en spirale, noueux, raboteux, très laid, et qu'on surnomme le pouvoir exécutif. Alors, ainsi accoutré, l'incroyable va par les rues, l'air abattu, mélancolique et comme brisé, mais ayant toujours son gourdin sous la main pour pouvoir corriger les Jacobins qui dit et éviter surtout, ça c'est ce qu'on disait tout à l'instant, éviter la lettre R, royauté, révolution, non tout ça, pas du tout, on veut plus entendre parler. Mais évidemment, vous comprenez, en 1794, les gens sont tellement soulagés d'avoir seulement survécu. Ils vont se jeter frénétiquement dans des plaisirs et c'est toujours comme ça, aux périodes de grande peur succèdent des périodes de grand défoulement. C'est ce qui va se passer dans les années folles après la guerre de 14.
C'est ce qui va se passer là après la COVID, quand on sera tous vaccinés.
Ah bah c'est ce qui se passerait, exactement. Ah, on va avoir une envie folle de faire la fête.
Oh là là.
Et vous verrez, à l'époque, on revoit des carrosses dans les villes, les magasins recommencent à garnir leurs étalages, les aristocrates qui ont fui la Révolution commencent à revenir ou à sortir de prison. Il y a une furieuse envie de vivre, de danser, de s'amuser. On a pu parler dans cette époque de dansomanie. Il y a près de 650 balles publiques dans Paris. Alors, des balles très particuliers auxquelles se rendent précisément ces incroyables, on les appelle les balles des victimes, n'y sont admis que ceux qui affirment avoir eu un membre de leur famille guillotiné. On y va en habit de deuil et on doit saluer d'un coup sec, comme si on venait d'avoir la tête tranchée par la guillotine. Voilà, vous penchez la tête en avant comme ça d'un coup sec. Alors, heureusement, à côté des incroyables, il y a une version un peu moins sombre quand même de la jeunesse masculine du directoire avec les muscadins. Parce que ce qui caractérise cette époque aussi, c'est la soif de plaisir et de sensualité. Donc, on revient. La mode, c'est les odeurs animales, sensuelles, le musc, la civette. Et ces jeunes gens, on les appelle les muscadins parce qu'ils se parfument, ils cocottent au musc. Et heureusement, côté femme, il y a une version quand même plus sensuelle et plus joyeuse. Les merveilleuses dont je parlais tout à l'heure, quasiment nues, dans leur robe à la Diane ou à la Flore, en perruque bleue et verte, avec des anneaux aux doigts de pied et des sandales à la romaine qui tiennent avec des rubans. Et il y a donc ces fameuses, les trois grâces du directoire, Madame Tallien, Madame Beauharnais, Madame Amelin. Mais voyez, c'est tout à fait caractéristique, c'est que la terreur révolutionnaire ne pouvait engendrer que des extrêmes dans la soif d'expiation pour toute l'horreur qu'on a traversée et la recherche du plaisir. Et voilà ce qu'exprimèrent ces courants de mode de l'excès, les incroyables et les merveilleuses, si Stéphane peut bien nous le redire, parce qu'il le fait vachement mieux que moi.
Les incroyables, les merveilleux.
Ah ben voilà.
Merci beaucoup Clémentine.
Et vivement la fin de la pandémie. Maintenant on sait ce qui nous attend après, ça donne envie.
Enfin, j'irai pas me promener toute nue pour autant.
Jusque là.
On va s'en fourrer jusque là.
Ben,
bienvenue
à Galas Offenbach. Oui.
Ah ben, bien sûr. Non mais bien sûr, c'est Offenbach.
J'avais la référence.
Je vais m'en fourrer jusque là. Je vais m'en fourrer jusque là. Porte la bête était là. Je vais m'en fourrer jusque là.
Ils m'ont l'air bien chaud pour le quiz. Restez avec nous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Stéphane Bern est un garçon cultivé. Sa mémoire est phénoménale. Il n'a au fond qu'un seul défaut qui lui joue des tours dans l'épreuve du quiz. Il est trop sensible.
Et quand j'écoute l'hymne à l'amour, je pleure.
Hélas pour lui, chaque après-midi vers 5h-10, ce n'est pas Piaf qui surgit face à lui, mais Clémentine Portier-Kaltenbach et l'hymne à l'amour se transforme en hymne à la loose. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous.
C'est très méchant tout ce que vous avez dit.
C'est vil.
J'ai le cœur brisé.
Oui, vous m'avez l'air d'avoir le cœur bien brisé. Tiens, Jean Dassin est mort à 41 ans. On est au cœur de l'histoire. Ouais. Il est mort à 41 ans d'un infarctus du myocarde à Papette. Ne cherchez pas de contrepétrie, il n'y en a pas. Est-ce que Jean Dassin a vécu suffisamment pour se faire un café en capsule? Oui ou non?
Oh, magnifique question.
Et alors, il est mort en quelle année, vous avez dit?
Je ne vous dis pas. Non, c'est pas.
Il est mort à 41.
Il essaye de m'arnaquer, vous avez vu ça?
Moi, Il est mort avant les années 80.
Il est mort en 78, quelque chose comme ça.
Je vous laisse chercher.
Non, je crois pas, parce que les capsules, c'est
Oui, mais regarde le coup du fax l'autre jour, là. Ouais, tu te souviens, le fax créé en 1842
Souviens-toi avec le fax de Soissons.
Avec le télégraphe, là. Non, on s'est fait avoir.
Et les SNCO, par exemple, avant les capsules.
Les placements produits.
Ah, regarde, puisque les filtres Melita ont été inventés par Melita Verne.
Melita, très bonne marque.
Très bonne, oui, mais par exemple, alors, avant qu'il y ait les petites capsules, les capsules Nespresso. Bon, avant, il y avait, vous savez, ces machines...
Les percolateurs.
Oui, alors on mettait
des capsules aussi, mais... Bien sûr, c'est pas vraiment des capsules.
C'est
ouais.
Les années 90.
Moi, je pense que là-dessus, oui,
il était mort avant.
Joe était mort avant, donc la réponse, c'est non.
Non.
Vous avez... perdu.
Vous avez perdu. Et pourtant, c'est pas faute de vous avoir aidé, hein, Clémentine. Vous avez dit, souviens-toi du fax. Parfois, entre l'invention elle-même, Stéphane, et la commercialisation de l'invention, il se passe... un temps fou.
Oui, mais moi, je suis l'auditeur lambda. Oui. Dans ma voiture, chez moi, je me dis, oh, bah, non, c'est pas possible.
C'est voilà. Pas possible, et pourtant, c'est possible. Joe Dassin meurt à 41 ans. Il est mort en 1980.
Ah, voilà.
Et
ça,
le café en capsule a été inventé en 1976 par Éric Favre, ingénieur chez Nestlé. Il faudra attendre quelques années pour que ça soit commercialisé.
Ok, j'ai faux.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Socrate. Comme beaucoup... parmi nous, avant d'être philosophe, Socrate a eu un premier métier. Il a été maître nageur dans la ville de Péréma, près d'Athènes. Vrai ou faux?
Alors écoutez, je pense pas que Socrate ait pu être spécifiquement maître nageur, mais est-ce qu'il a été dans une palestre où il enseignait le sport à de jeunes héromènes, c'est une chose qui est tout à fait possible. Il était tellement occupé de questions de maïotique et de formation des esprits.
Et de jeunesse aussi.
Et après tout, mens sana in corpore sano, je dis oui, Socrate était maître nageur.
C'est un oui franc et massif.
Vous avez perdu.
Et c'est perdu. Mais Socrate, j'aime quand vous êtes enthousiaste comme ça et d'un coup, la sanction tombe. Non, alors Socrate a eu un autre métier que philosophe, si tant est que philosophe soit un métier, c'est plutôt un art de vivre. Avant de se consacrer en tout cas pleinement à la philosophie, Socrate a été sculpteur pendant plusieurs années.
Ah, je l'ignorais, tout à fait.
Et quel était le métier de la mère de Socrate? La mère de Socrate.
Bon, elle n'avait pas de métier, la mère.
Mais si. Et c'est pour ça que la maïotique, la mère de Socrate, était sage-femme.
Était accoucheuse.
Oui, elle accouchait, effectivement.
Ah,
et c'est pour ça qu'on a fait un parallèle avec lui.
Donc Socrate était sculpteur.
Il a été sculpteur.
Est-ce que des œuvres de Socrate nous ont été conservées?
Et vous pouvez les admirer chez Stéphane, dans ce qu'il a appelé sa petite galerie des glaces.
Ah,
question numéro 3.
Vous pensez que des gens vont croire
Stéphane.
Ce que vous dites?
Oui, il y aura toujours des gens. Vous savez, on en a
mais
déjà
voici
parlé.
Mais voici la prolonge même... du belvédère de Socrate.
Quand vous pensez que sur votre page Wikipédia, il est écrit que vous descendez de Robespierre, tout ça parce que vous avez une pub au second degré. Donc, les gens peuvent le... Il y en a toujours qui le croiront. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le 1er décembre 1953, la planète Terre s'arrête de tourner. C'est la sortie du premier numéro de Playboy, avec en couverture Marilyn Monroe. Qui n'a jamais fait... la couverture de Playboy? Amanda Lear, Romy Schneider, Barbara Streisand et Marie-France Garraud. Attention, peut y en avoir plusieurs. Qui n'a jamais fait la une de Playboy?
Alors, je sais que Marie-France Garraud l'a faite. Ça avait fait scandale déjà à l'époque. Honnêtement, j'ai rencontré Barbara Streisand. C'est pas le genre. Elle est...
Et comme ça, Barbara Streisand. Là, si vous suivez sur Europe1.fr, une très belle imitation de grimace de Barbara Streisand.
Non, elle est dure.
Elle est dure.
C'est pas,
pas du genre à poser pour Playboy, hein, les cuisses ouvertes. Alors, vous répondez, qui n'a jamais fait, la question c'est qui n'a jamais fait la couverture de Playboy? Amanda Lear, Romy Schneider, Barbara Streisand ou Marie-France Garraud?
Je dirais Romy Schneider et Barbara Streisand.
Vous donnez deux réponses.
Oui.
Et je vais vous dire une chose, si vous avez bon sur les deux, ça vous fait 2 points. C'est une décision que j'ai prise comme ça.
Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu.
Et donc vous avez 2 points en moins, puisque ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Surtout que vous avez affirmé la première chose que vous avez affirmée du haut de votre culture.
Sans mentir.
Alors, Marie-France Garraud l'a fait. Alors,
ben oui.
On appelle Marie-France Garraud.
Ah non, la pauvre, elle est morte.
Et oui, bien sûr. Et non, celle qui a été avec Pierre Juillet, une éminence grise de Jacques Chirac, n'a jamais fait la une de Playboy. C'est assez logique quand on y repense. D'où vient cette idée?
Moi, vous m'avez soufflé sur ce coup-là.
Mais d'où ça sortait?
Mais c'est pas possible, Marie-France Garraud.
Avec qui vous confondez?
Vous étiez tellement sûr de vous.
Il m'a semblé que
vous
êtes
vous confondez avec Jeannie?
Vous confondez avec Edmond Charles Rouge, je pense.
Mon Dieu, il y a eu une confusion. Confusion totale.
Je l'aime bien, moi. Avec son chignon, tout tiré comme ça. D'ailleurs, un peu.
Mon Dieu.
Ah, ça, il s'y connaît en tête couronnée, mais alors la politique, il y a quelques petites lacunes.
Mais Marie-France Garraud, elle est toujours de son.
Non, je crains que non.
Mais non, mais vous vous trompez, Stéphane.
Attendez.
Mais vous devez confondre.
Alors, l'information européenne vient de tomber. Stéphane, Marie-France Garraud est vivante.
Mais dans quel état?
Et non, et justement, en très bon état, puisqu'en écoutant notre émission, elle écoute Europe 1, elle va peut-être faire la une du prochain Playboy. C'est dans les tuyaux, si j'ose dire.
Alors, quelle était la réponse?
Alors, Romy Schneider a fait la une en 1980, Barbara Streisand, lapin belge, comme vous l'appeliez, en 77, et Amanda Lear en 78 dans l'édition italienne. Amanda, qu'on embrasse.
Alors, moi, spontanément, évidemment, j'aurais dit tout de suite, Marie-France Garraud n'a pas fait la couverture de Playboy.
Je rappelle les scores, -2-0. C'est-à-dire que c'est une émission de très, un quiz
là,
de très haut niveau.
Vous êtes embêté pour votre cinquième
question.
Oui,
mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas pour moi. Question numéro 4. Clémentine, c'est pour vous. Dans la déclaration d'indépendance des États-Unis datant du 4 juillet 1776, parmi les droits consacrés, on trouve la vie, la liberté et le bonheur. Vrai ou faux?
Je pense que dans l'esprit des pères fondateurs des États-Unis, il y a cet esprit des Lumières et l'aspiration au bonheur dont Saint-Just disait « le bonheur est une idée neuve ». Je pense que c'est possible, oui, est-ce que le bonheur figure dans la déclaration des droits Oh, écoutez, si ça n'y est pas, ça mériterait d'y être et ça contrecarrerait un peu le droit du port d'armes et l'amendement qui permet aujourd'hui encore aux Américains de s'armer jusqu'aux dents. Donc je répondrai oui.
Vous avez perdu.
Nous sommes à -2, -2. C'est parfait. C'est exactement. C'est pour ça que je vous ai laissé répondre. Effectivement, vous avez raison. Ça aurait été beau que ça soit inscrit comme ça. Alors d'ailleurs, c'est plus perfide que ça. Je vous ai demandé si on trouvait dans la Constitution, dans la Déclaration d'indépendance, pardon, des États-Unis, cette phrase, la vie, la liberté et le bonheur. C'est faux, on y trouve la vie, on y trouve la liberté, mais pas le bonheur, en tout cas, pas écrit comme tel. Il est écrit que chaque citoyen peut se lancer à la recherche du bonheur.
Oh,
c'est vrai que ça coûte rien de chercher le bonheur.
Oh non, mais vous pinaillez, mais bien sûr.
C'est différent, on leur dit qu'ils ont le droit de chercher le bonheur, et on leur garantit
pas
le bonheur.
Non, écoutez, vraiment...
C'est -2, la décision est tombée.
Une réclamation.
Aucune réclamation, vous aurez droit à la 5e question, pour le plus grand plaisir de nos auditeurs vicieux. En 1990, deux journalistes américains se sont livrés à une expérience étonnante sur des personnalités multimillionnaires. Ils leur ont envoyé des chèques de 1$, puis de 0,64$, puis de 0,13$ pour observer jusqu'où allait leur amour de l'argent et voir si elles allaient encaisser les chèques. Le chèque de 13 centimes n'a été encaissé, de 13 cents, puisqu'on est aux États-Unis, n'a été encaissé que par une seule personnalité. Laquelle ? On est en 1990, les chèques ont été envoyés
Steve Jobs.
À des millionnaires. Attendez, je vous
Il
donne des noms.
Liste, ouais.
Je vous donne des noms. Je vous donne des noms. Trois possibilités. Qui a encaissé le chèque à 13 cents? Donald Trump, Clint Eastwood ou Frank Sinatra?
Frank Sinatra.
Frank Sinatra pour
Moi,
Stéphane.
Trump.
Victoire de Clémentine. Il a vraiment toutes les qualités, cet homme-là. Il est, en plus d'être multimillionnaire, il est rapia. C'est une pince. Il a le seul millionnaire qui a encaissé le chèque à 13 cents, c'est Donald Trump.
C'est le début de la richesse.
C'est le début de la richesse. Citons les personnalités qui n'ont encaissé aucun chèque. Aucun des chèques. Dustin Hoffman, John McEnroe, Billy Joel et Woody Allen. Comme quoi, on peut aussi dissocier
Oui, ce qui ne veut rien dire non plus, Mathieu.
Qu'il n'ait pas encaissé le chèque? Bah quand même.
Alors encaisser le chèque, ça veut dire prendre une enveloppe, trouver un timbre et dépenser en acheminement dépenser davantage en acheminement et en papeterie.
Dit long sur la.
Parce qu'il l'a pas vu passer ce chèque, ça tient pas de vous. Votre histoire, c'est aussi saugrenu que Marie-France Garrouche en une de Playboy. Non mais
en attaquant l'intérêt même au cœur de ce quiz, vous venez de perdre votre point. C'est Stéphane Bern qui remporte le quiz à la surprise générale, car lui n'a pas contesté la qualité des questions. Prenez-en de la graine, Kaltenbach.
Ça devient vraiment
Je vous le confirme.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, deux heures de gai savoir et de bonne humeur communicative, grâce notamment aux incises humoristiques percutantes de mon fiévreux acolyte Stéphane Bern, qui est aussi disponible pour vos goûters d'anniversaire, mariage, baptême, bar mitzvah. Stéphane, je vous laisse lancer cette deuxième heure sur les rails d'un comique haut de gamme.
Tu sais qu'avec le variant anglais, tu peux plus éternuer dans ta manche.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que le variant anglais traverse la manche.
C'est parti pour une deuxième heure de folie, Stéphane.
Hein, mais comment vous avez récupéré
je donne à voir aux auditeurs qui vous êtes hors antenne. Ouais. Et vous êtes quelqu'un d'encore plus drôle qu'à l'antenne, si c'est possible, je ne sais pas.
Alors, au programme de cette deuxième heure, Mathieu, on continue d'évoquer des personnages qui ont côtoyé Karl Lagerfeld de près. Le célèbre couturier nous a quittés il y a 2 ans maintenant. L'occasion de vous parler, après Pierre Balmain, celui qu'il a côtoyé de très très près, Jacques de Bacher, son grand amour dans la vie. Quant à vous, Mathieu, vous évoquerez l'autre grand amour de Karl, plus platonique celui-là.
Espérons-le, en effet, Stéphane, sinon pauvre Choupette. Oui, Choupette, c'est la chatte la plus chanceuse de l'histoire, puisqu'au lieu de finir piqué, on a piqué son maître avant elle. Et comme Karl avait la main sur le cœur, il lui a refilé, en tout cas c'est ce qu'on dit, une belle partie de sa fortune. Que devient Choupette, la chatte millionnaire ? A-t-elle déjà tout claqué à Vegas ou bien a-t-elle tout mis sagement sur un compte à terme ? J'ai enquêté. Mais je crois que vous aussi, Stéphane, pour votre célèbre chronique, le mot de la fin, vous avez enquêté.
Oui, à tes souhaits. Quand quelqu'un éternue désormais dans son coude, donc les gens lui disent à tes souhaits. Pourquoi on dit à tes souhaits ?
Pourquoi on dit à tes souhaits ? Et on poussera un peu l'interrogation plus loin, parce que je crois que dans certains milieux huppés, on ne doit pas dire à tes souhaits. Non. C'est comme bon appétit.
Bon appétit.
Tout ce qui a trait aux choses du corps.
Tout ce qui se passe dans votre corps, un rot par exemple, vous ne commentez pas un rot, vous ne commentez pas un paix.
Non, c'est vrai. Mais, mais quand quelqu'un éternue face à vous, Stéphane, vous ne dites jamais, vous le regardez comme ça, puis il attend à ce que vous disiez à vos souhaits et vous ne dites rien. Parce que vous êtes fait...
Non, ou alors, oui. À tes amours, mais...
à tes amours directement.
Lui aussi, Mathieu, il a beaucoup travaillé, ne l'oublions pas.
Mais comment l'oublier ? David Castello-Lopez est avec nous. Chaque jour, il remonte aux origines d'un objet du quotidien. Et c'est quoi, Stéphane, votre objet du quotidien préféré ?
Moi, c'est le préservatif.
Ah, non, pas de bol aujourd'hui, non. David. Vous ne nous parlez pas du préservatif.
Mais non, mais...
Mais oui, vous avez le droit.
Je le ferai un jour.
Le sucre en morceaux.
Le sucre en morceaux, c'est fou.
C'est vrai que le sucre n'est pas spontanément en morceaux.
Oui. Le sucre même n'est pas d'ailleurs tout.
Il n'est pas comme ça naturellement.
Le sucre qu'avait arrêté Karl Lagerfeld, il buvait beaucoup de Coca Light. Karl Lagerfeld, que l'on évoque cet après-midi, et on évoquera Karl aussi avec quelqu'un qu'il a côtoyé de près dans les 20 dernières années de sa vie. On ne pouvait pas voir l'un sans l'autre, son homme de confiance en quelque sorte, Sébastien Jondeau, qui publie « Ça va cher Karl », un récit de sa vie lié à celle de Karl Lagerfeld et qui paraît aux éditions Flammarion.
Et tout de suite, attention, séquence émotion, Stéphane nous raconte Jacques de Bacher, le grand amour parti trop tôt de Karl Lagerfeld.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
À la question intime, qu'est-ce qui vous a si longtemps rattaché à Jacques ? Karl Lagerfeld a répondu, la différence. Une différence, voire plusieurs, qui n'ont pas empêché ces deux-là de s'aimer. Bien au contraire, Stéphane Bern nous raconte Jacques de Bacher.
Dans Proust, il y a Swann qui vit avec Odette et lui tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas de son genre. Voilà mon histoire. Cela n'empêchait pas une affection réelle, profonde et définitive avec Jacques. Ces mots sont ceux de Karl Lagerfeld. Il y évoque le grand amour de sa vie, Jacques de Bacher. Il le rencontre en 1971 dans l'un des clubs parisiens où le jeune homme passe ses nuits. Jacques a 20 ans, c'est un personnage fantasque et dilettante, sûr de lui et de son charme, qui s'est fait virer de la marine où il a défrayé la chronique en incitant ses camarades à la débauche. Un temps steward chez Air France, Jacques vit surtout pour la fête. Ça tombe bien, au début des années 70, Paris connaît une période de folle bamboche. Mai 68 a fait voler la chape de plomb qui pesait sur les mœurs et sur la jeunesse. On danse jusqu'à l'aube chez Castel ou à l'Alcazar. Les clubs gays fleurissent dans le quartier de la rue Sainte-Anne, aux Colonies, l'un d'entre eux. Si on arrivait jusqu'au bar avec le pantalon encore accroché, c'était bizarre, raconte un ancien habitué. Au Pimm's ou au 7 se presse le tout Paris de la mode et du spectacle. Thierry Luron, Yves Mourouzi, Yves Saint-Laurent et son compagnon Pierre Berger. Sur la piste, on peut apercevoir Grace Jones danser la poitrine nue sur des sons soul et funk. L'ambiance est très enfumée, la mode est au néon, au miroir. On prend de la drogue sans se cacher, cocaïne et anxiolytique mélangés à l'alcool qui ont raison même des plus introvertis. Le soir où Jacques attire l'attention de Karl,
Le jeune fêtard, qui peut tout se permettre, porte un costume tyrolien, sans savoir que le couturier a justement un faible pour la lederhose, cette culotte lourde autrichienne, depuis qu'il est tout petit. Il était le français le plus chic que j'ai connu, commente-t-il. À 38 ans, Karl est déjà connu dans le milieu pour son travail à la tête de la maison Chloé. Mais Jacques voit plus loin et confie à un copain. Ce sera le plus grand styliste des années à venir et ce sera aussi mon petit ami. Étrange prémonition, puisqu'a priori rien ne rapproche les deux hommes. Karl travaille énormément, même l'été, dans la villa de Saint-Tropez que sa mère loue pour lui et ses amis. Le couturier s'isole de longues heures à son bureau. Si le soir, Karl accompagne sa bande en discothèque, il ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas. « J'ai vu des gens en prendre et je n'ai pas trouvé que ça leur réussissait », dira-t-il. Tout l'inverse de Jacques qui aimait éperdument la fête, les paradis artificiels et le sexe. Karl, lui, est abstinent, asexuel sans doute. Leur histoire d'amour, il le jure, n'a jamais été consommée. Mais ils ont en commun le goût des langues et de la littérature et une passion pour l'histoire aristocratique. Jacques a de l'humour, une immense culture, il est capable de citer Cocteau comme de se trémousser une minute plus tard sur de la disco. Et puis il a un charisme et une assurance exceptionnelle. Quand il entre dans une pièce, tout le monde se retourne. Karl Lagerfeld a déjà bien réussi, il a de l'argent grâce à son père qui a fait fortune dans le lait concentré. Jacques, lui, est un vrai dandy qui cultive le beau, sans se soucier de rien d'autre et surtout pas d'assurer les conditions matérielles de son existence. Il trouve même, comme au 19e siècle, que le travail est déshonorant. Alors, quand Karl offre à son compagnon d'habiter l'un de ses appartements, Jacques accepte sans hésiter. Jamais le couple ne vivra sous le même toit. Karl aime la solitude et ne supporte pas qu'on le dérange dans son travail. Jacques aime séduire. Il charme même tout ce qui bouge, homme comme femme, aristo ou concierge, et jusqu'au policier qui l'arrête parce qu'il ne porte pas de casque sur sa moto. Karl n'est pas jaloux. Ce que fait Jacques lorsqu'ils ne sont pas ensemble ne l'intéresse pas, mais il aime quand même qu'il le tienne au courant. Les amis de Jacques n'étaient pas mes amis, je les trouvais horribles pour la plupart, confie-t-il. Mais ça me plaisait de faire des choses par procuration. Quand en 1973, Jacques attire Yves Saint-Laurent dans ses filets, Karl ne s'alarme pas davantage. Yves pourtant s'enflamme chaque jour un peu plus pour ce jeune homme de 15 ans, son cadet, qu'il entraîne dans les bars louches et les coins malfamés du Palais Royal. De son côté, Jacques s'amuse mais ne chavire pas. Son vrai amour, c'est Karl. L'affaire est sans conséquence pour le couple, mais brouille à jamais les clans Saint-Laurent et Lagerfeld. À Paris, la fête vit encore ses belles années. En 1978, ouvre le Palace, puis les bains-douches, deux clubs mythiques où s'enchaînent les soirées les plus folles. La fête bat son plein. Mais dans les années qui suivent, le cœur n'y est plus tout à fait le même. Les jeunes branchés n'ont même pas 18 ans et Jacques, dans sa trentaine, commence à être dépassé. Le 7, lieu de tant de souvenirs, ferme définitivement. C'est la fin d'une époque. Karl, désormais à la tête de Chanel, devient de plus en plus célèbre, de plus en plus riche. À ses côtés, Jacques peine à trouver sa place. Il n'a pas de projet. Les années d'excès ont eu raison de sa santé. Il a des comportements bizarres, raconte des histoires étranges, marche à quatre pattes devant les fenêtres de son appartement pour échapper à des prétendus tueurs postés en face. Il a peur de Pierre Berger, qui l'a menacé. Mais c'est un autre mal qui va bientôt porter un coup fatal au temps de l'insouciance. Une maladie inconnue, on parle alors d'hépatite. En mai 83, l'Institut Pasteur isole le virus du sida. Dans l'entourage de Jacques et tout le milieu homosexuel, c'est une véritable hécatombe. Mais lui refuse de faire attention, c'est trop contraire à sa manière de vivre. L'année suivante, il est diagnostiqué positif. Karl met à sa disposition les meilleurs médecins, mais il n'y a pas de traitement. Le couturier star fait installer un lit de camp dans sa chambre à l'hôpital. Il y passe les quatre dernières nuits de la vie de Jacques, qui s'éteint le 3 septembre 1989, à 38 ans. Karl ne refera jamais sa vie. En 2009, il écrit à la mère de Jacques, « Même encore aujourd'hui, 20 ans après sa mort, je peux dessiner notre Jacques de mémoire, en 30 secondes, tellement il est présent dans mon esprit, dans mon cœur. Je ferme les yeux et je le vois. »
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jacques de Bachère, nous sommes avec la journaliste Marie Ottavi qui lui a consacré une riche biographie. Bonjour Marie.
Bonjour.
On parle du dandy de l'ombre et on va essayer de le remettre en lumière avec vous dans un petit instant. Restez sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos personnages qui ont côtoyé Karl Lagerfeld de près continuent. On parle de Jacques de Bachère avec notre invitée Marie Ottavi.
Oui, Marie Ottavi, vous êtes journaliste à Libération et vous avez publié une biographie très très fouillée de Jacques de Bachère, dandy de l'ombre, qui est réédité en poche aux éditions Plomb. Jacques de Bachère était un homme de l'ombre, mais aussi un homme de la nuit.
Karl Lagerfeld aussi, parce que où là, c'est peut-être la plus grande différence. Mmh. Déjà d'emblée, l'un aime le jour et l'autre la nuit.
Ah, on peut pas tout à fait dire ça, parce qu'en fait, quand ils se rencontrent, Karl Lagerfeld, il a l'habitude de beaucoup sortir. Il finance d'ailleurs ensuite un nombre assez important de fêtes, qui seront parmi les plus belles fêtes, notamment du palace. Il aime la nuit, mais en fait, ce qu'il aime dans la nuit, c'est observer. Il a une position de voyeur. Il aime la décadence des autres et elle l'inspire et voilà, intimement, elle lui apporte quelque chose vraisemblablement. Mais ce qu'elle lui apporte aussi la nuit, c'est évidemment des idées. La nuit, ce sont des gens très lookés, qui passent des jours, des semaines à se préparer pour une fête.
Bah, comme Stéphane, et qui font les... À chaque fois que vous allez à l'Hippopotamus, vous vous habillez.
Elle est facile, mais...
Toujours, il est très bon public.
Cela dit, c'est pas le premier nom qu'on associe à Karl Lagerfeld, celui de Jacques de Bachard, parce que le grand public le connaît pas. Et pourtant, on l'a découvert en partie grâce au film sur Yves Saint-Laurent, et puis... Tout cela, ça a commencé avec un livre, The Beautiful Fall.
Absolument.
Sur la rupture. C'est Jacques de Bachère qui a marqué la rupture entre Yves Saint-Laurent et cette haine tenace après avec Karl Lagerfeld. Et vous allez plus loin. Vous dites, c'est son amour, son unique amour. Mais comment l'a-t-il ensorcelé, pour reprendre vos mots?
Parce qu'en fait, il est très romanesque toute sa vie. Lui, c'est un vrai dandy. Maintenant, c'est un peu galvaudé le terme de dandy. On l'emploie à tort et à travers. Alors que là, c'est vraiment un vrai dandy parce que il refuse de travailler. Il a cette posture comme ça où il s'incarne en lui-même et ça lui suffit quelque part pendant un temps. Et ça plaît à Karl Lagerfeld. Ce qui les réunit, c'est sa beauté, d'abord son charme surtout et sa culture. Il se rencontre dans un petit club parisien. Il passe la nuit à parler, mais pas forcément que de mode. Au contraire, il parle de littérature, il parle de personnages historiques. Et puis aussi, Karl, il aime vraisemblablement, enfin en tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit, il aime la désinvolture de Jacques de Bachère. Ce dont il s'est toujours écarté pour lui-même.
Il est difficile à saisir quand même avec nos yeux aujourd'hui. Les dandys n'existent plus vraiment comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Jacques de Bachère, on a l'impression, est-ce que par exemple, parce qu'il aurait voulu être connu, il n'est pas très connu du grand public, ou est-ce que, au contraire, dans sa posture de dandy, il voulait être connu d'un petit milieu, mais pas être connu au sens de la pipolisation aujourd'hui?
Oui,
on a l'impression qu'il est très différent.
Oui, exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a toujours la notion de profit qui rentre en jeu. Et là, c'était pas tout à fait le cas. Évidemment, à un moment donné, ça ne lui aurait pas déplu. Et d'ailleurs, à l'époque, il posait dans Vogue beaucoup, parce que Karl Lagerfeld était très lié à Vogue. Et puis parce que c'était un peu une incarnation idéale. Il était très élégant. Il avait un vrai style naturellement. Donc ça, pour un magazine de mode, ça n'a pas de prix. Et ça lui plaisait. Il aimait assez se mettre en avant. Mais rester dans l'ombre et conserver ce mystère, ce statut un peu qui prêtait à question et à conversation, parce que les années 70-80, c'est quand même l'ère du qu'en dira-t-on, de la médisance, et tout le monde en jouait, dans les deux clans d'ailleurs, que ce soit chez le clan Saint-Laurent ou le clan Lagerfeld, et surtout dans la mode, c'est un peu constitutif du milieu de la mode.
Il y a beaucoup d'aiguilles, il faut se méfier, il y a beaucoup d'épingles.
Ouais. Ça pique, mais certains adorent que ça pique. Oui. Et eux, voilà... Vraisemblablement, il est dans cette posture.
Oui. Mais est-ce que c'est une véritable histoire d'amour? Selon nos codes aujourd'hui, on a du mal à comprendre, parce qu'une histoire d'amour...
Voilà. Sans consommer, Stéphane ne comprend pas, en fait.
Qu'est-ce que c'est, une histoire d'amour?
Justement, aujourd'hui, on a du mal à imaginer une histoire d'amour platonique, ou en tout cas...
Ils n'ont pas, vraisemblablement pas de rapport sexuel, Karl Lagerfeld me l'a confié. C'est ça qui était fascinant à Karl Lagerfeld, c'est qu'il avait toujours refusé de parler de cet homme, à part quelques mentions dans des journaux. Là, c'est la première fois.
C'est la première fois, c'est en 2017, pour la première fois, il en parle.
Voilà, c'est la première fois, il accepte d'en parler pour ce livre. Et dès lors qu'il accepte d'en parler, on va très loin dans l'échange et on parle de cette sexualité, ce qui n'est pas quand même évident, parce que c'est quand même Karl Lagerfeld, ça reste quelqu'un de très pudique, même si ça peut paraître étonnant. Mais il dit que oui, en tout cas, il n'a pas voulu aller là, sur ce terrain avec Jacques. Leur relation était autre, elle était complice à bien d'autres égards. Et d'ailleurs, la fin de Jacques. La façon que Karl a eu de l'accompagner, ce qu'il n'avait jamais fait, même pour sa propre mère qu'il adorait. Il était terrifié à l'idée de d'être malade et d'être confronté à la maladie. Il a même éconduit des gens de son premier ou second cercle parce qu'ils étaient malades et souffrants. Donc, qu'il soit allé jusque-là, c'est une preuve d'amour. Après, est-ce qu'il s'aimait vu les réactions de Karl Lagerfeld 30 ans après la mort de Jacques, quand on évoque sa disparition et le manque, oui, je le crois, ouais, qu'il l'aimait.
Vous rapportez ces confidences de Karl Lagerfeld, je cite ce qu'il dit. « Vous avez lu Un amour de Swann, dans Du côté de chez Swann de Proust. Le récit s'achève sur cette phrase. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre, eh bien Jacques et moi, c'était ça. » Ils auraient jamais dû être ensemble au final ?
Oui, vraisemblablement. Bah, ils sont si différents, ils sont même diamétralement opposés. Et ça prouve que c'est possible, en fait. On peut être réunis par ces différences. Enfin.
Et cette histoire d'amour était tellement forte qu'il en voulait encore 30 ans après à Yves Saint-Laurent.
Je pense qu'il en voulait pas à Yves Saint-Laurent, il en voulait plus à Pierre Berger qu'à Yves Saint-Laurent, parce qu'il considérait que c'était Pierre Berger qui avait ruiné leur amitié, celle d'Yves et Karl. Et pour lui, Pierre Berger avait orchestré la tragédie de cette rupture entre plusieurs personnes. En fait, pour Karl, si Pierre Berger n'avait pas pris les choses de façon aussi grave, leur amitié aurait peut-être perduré. Mmh. Il tolérait que Jacques ait des amants, et notamment Yves Saint-Laurent. Ce qui ne lui déplaisait pas non plus, parce qu'il était quand même assez heureux de savoir ce qui se passait dans le clan d'en face, etc. Enfin, ça l'amusait, il lui rapportait des informations. Ouais, vraiment. Mais donc, ça paraît très étonnant, mais c'est comme ça qu'il vivait sa vie amoureuse.
Merci beaucoup, Marie Ottavi. Je rappelle le titre de votre biographie, Jacques de Bachère, qui vient tout juste d'être édité dans la collection qui fait son retour chez Plomb, L'Abeille Plomb. Merci
beaucoup.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ceux qui ont côtoyé Karl Lagerfeld de près. Après Pierre Balmain, le grand couturier, à l'avoir repéré et embauché, Jacques de Bachère, son unique amour, on accueille Sébastien Jondeau, qui a côtoyé Karl Lagerfeld pendant 20 ans. C'est vraiment son homme de confiance, membre de sa garde rapprochée. Il n'était pas très nombreux. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous.
Bonjour. Bonjour.
Vous allez nous raconter le Karl que vous avez côtoyé de très près, que vous avez conduit, protégé, écouté, fait marrer aussi beaucoup. Mais juste avant...
Sûrement.
Oui, mais juste avant, Mathieu va nous parler de quelqu'un qui a énormément compté dans la vie de Karl Lagerfeld, et on est tous très jaloux. Oui. C'est sa chatte Choupette.
Et oui Stéphane, je parle évidemment sous le contrôle de Sébastien Jondeau, qu'il a bien connu, qui a peut-être, qui sait, déjà eu le privilège de changer sa litière, je ne sais pas. Choupette Sûrement. Fut un personnage important dans la vie de Karl, un coup de foudre réciproque. Alors, pudique, elle n'a pas accepté de répondre à mes questions, de toute façon, c'eût été compliqué, car je ne parle pas le birman. Or, Choupette est un sacré de Birmanie. Son vrai nom, un peu plus élaboré que Choupette, guimauve du blues Daphné, pelage blanc, profession chatte à Karl. Karl nous ayant quitté il y a 2 ans, déjà rassurons ses fans, ils sont nombreux puisqu'elle a plus de 79 000 followers sur Instagram. Comment va Choupette, Stéphane ?
Bien, je l'ai au téléphone la semaine dernière.
Oui, elle va bien, vous, c'est moins sûr. Karl serait heureux de savoir qu'elle va bien. Il adorait sa petite chatte qu'il décrivait ainsi, je cite, « Stéphane, merci de nous livrer votre plus belle imitation de Karl, s'il vous plaît. »
Ses poils sont coulés à neige avec quelques touches caramel autour des yeux et des oreilles. Sa queue interminable ressemble aux plumes d'un boa et ses yeux sont bleus saphir étoilés.
Moment unique que nous venons de vivre dans le studio Coluche, puisque Sébastien Jondeau, qui fut l'homme de confiance de Karl, a cru l'espace d'un instant voir Karl ressurgir devant lui par l'entremise de cette imitation de haut vol. C'est étrange.
J'ai été surpris.
C'est fascinant. Oui, moi aussi, je suis surpris tous les jours avec lui. Alors, me direz-vous, comment Choupette a-t-elle débarqué dans la vie de Karl ? Il y a 2 versions. Alors, 1, Baptiste Giabiconi lui a offerte. 2, Baptiste Giabiconi l'aurait laissé en garde chez Karl Lagerfeld alors qu'il devait s'absenter pour une quinzaine de jours. Et Karl, tombé raide dingue de Choupette, aurait refusé de la lui rendre. Alors, on est d'accord, la deuxième est plus marrante. Je sais pas si elle est vraie, mais...
C'est la vraie, il s'est fait racketter Choupette.
C'est la bonne version.
Non, il lui avait proposé s'il pouvait lui garder pendant ses vacances. Ouais. Karl avait accepté. Il n'a jamais voulu rendre la Choupette, quoi.
Bah, on comprend. Elle est tellement
mignonne. Il est tombé amoureux de cette fameuse Choupette.
Alors, Choupette chez Karl mènera une vie classique de chat d'appartement à quelques petits détails près. Là, Sébastien, je compte aussi sur vous pour démêler le vrai du faux. Quant au staff de Choupette, on a parlé de 2 nounous.
C'est vrai.
Et pourquoi 2? Une pour la nuit, une pour le jour?
Bah, elle se partageait,
les 35 heures.
Non, c'était pas la nuit et le jour, mais il y en avait, elles avaient un peu de repos de temps en temps, quand même.
C'est beau. Un garde du corps?
Non.
Ça, c'est faux.
Ça, c'était.
D'accord. Un veto?
Un veto, si, on avait un veto, on allait tout le temps chez la même veto. Ça,
ah c'est... non, d'accord, mais vous aviez un veto chez qui on allait? Il y avait un veto à demeure vivant.
Non.
Gurfeld.
Mais ça, c'est drôle, quand même.
Et un cuisinier?
Bah, Karl avait deux cuisiniers, donc il pouvait en avoir un pour Choupette.
D'accord, il y avait un
cuisinier. La légende là-dessus.
Pour Choupette, ouais, ça c'est bien. Alors, ouais. Karl l'a dit, cette chatte a changé sa vie. Avant, visiblement, il n'était pas trop chat, Karl Lagerfeld. Là, avec Choupette, il est complètement gaga. Il ne se lasse pas de l'observer et elle l'adore aussi. Elle va jusqu'à dormir sur sa tête, paraît-il. Alors, tout ça reste dans la sphère privée jusqu'au moment où, quelques semaines plus tard, après qu'il ait eu Choupette, le rédacteur en chef d'un magazine poste sur Twitter une photo de la chatte posant dans l'appartement du pape de la mode. Et c'est parti, la Twitter s'emballe, au point qu'un compte fan est lancé avant même que Choupette ait eu le temps de dire. Les journalistes se prennent au jeu, on veut des entretiens avec la nouvelle muse de Lagerfeld, qui avec son humour habituel laisse entendre qu'à terme Choupette va devenir plus célèbre que lui. Alors, plus célèbre non, mais hyper célèbre oui. Elle fait la couverture de magazines de mode comme Grazia, Harper's Bazaar, Le Vogue Allemand, où elle apparaît dans les bras de Linda Evangelista. Alors, évidemment, tout ça est un peu surprenant, mais au fond, pourquoi se moquer de cet emballement médiatique pour un chat? David s'emballe bien pour des post-it.
Les post-it, c'est quand même génial.
Ouais, y a des tarés partout. En 2014, Choupette est carrément propulsée rédactrice en chef invitée du Karl Daily, un journal dédié à la marque du couturier qui est distribué dans ses boutiques. Un livre sur son histoire paraît même chez Flammarion, rédigé comme un journal intime et illustré de nombreuses photos que Karl prend d'elle toute la journée. Elle devient égérie Opel en 2015, puis sa propre ligne de maquillage est lancée. Avant la fin de l'année, Choupette a déjà rapporté plus de 3 millions d'euros. Et là, il est temps de dresser une comparaison terrible en termes de rendement avec Dash, le chien de Stéphane Bern. Un chien sympathique au demeurant, mais dont le bilan comptable est moins flatteur puisque Dash a déjà coûté beaucoup d'argent à Stéphane en croquette. En soins vétérinaires, notamment de dispendieux suppositoires anti-reflux gastriques qui n'ont pas permis d'ailleurs de sauver le tapis du salon, mais n'a toujours strictement rien rapporté à son maître, pas un radis. Il faut dire aussi que Karl est peut-être plus doué en marketing que Stéphane. La preuve, Karl était plus exigeant pour les pubs que tournait Choupette que Stéphane pour les pubs qu'il tourne lui-même. Vous n'auriez par exemple jamais vu Choupette vanter les mérites d'une pomme de terre avec des jeux de mots douteux.
Certaines princesses ont besoin d'être un peu beurrées.
Non, Karl, lui, avait une éthique. Contrairement à vous, Stéphane, je ne lui permettrai pas de faire des publicités pour croquettes. Elle est trop sophistiquée pour ça. Elle a quelque chose d'unique, estimait Karl. Une unicité qui va même l'inspirer directement dans son art, puisqu'en 2012, il sort un sac portant son nom et l'année suivante, carrément, une collection baptisée Monster Choupette avec des sacs à main en forme de tête de chat, des portefeuilles, des housses de smartphone à moustache et des foulards. Choupette devient incontournable. Que fait Dash pendant ce temps-là? Rien. 8 ans d'idylle jusqu'à ce 19 février 2019 qui voit s'éteindre Karl Daddy. Les fans de Choupette s'émeuvent. Que va-t-elle devenir? La rumeur court que Karl lui a légué une partie de sa fortune et la plupart de ses biens. En 2015, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Karl lui-même avait avancé cette rumeur. Elle a sa propre fortune, c'est une héritière, elle ne manquera de rien, elle sera ma seule légataire. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, le droit français ne prévoyant pas la transmission intégrale en ligne directe du défunt achat. Mais comme vous l'imaginez, dans le cas d'un héritage si colossal, les charognards se sont pointés, des opportunistes ont réapparu chez le notaire, se prétendant amis intimes de Karl, alors qu'on les avait pas vus depuis des années.
Coucou, me revoilà.
Heureusement, Daddy prévoyant avait nommé une tutrice dans un acte notarié. Choupette la connaît bien, c'est Françoise, sa nounou, elle vit avec elle, son environnement n'a pas changé, elle a toujours son staff, plus un fiscaliste et un agent, car oui, Choupette a signé chez My Pet Agency, et c'est un dénommé Lucas qui gère désormais sa carrière, dans les tuyaux notamment des projets caritatifs pour la défense des animaux. Ah, excusez-moi, Mme Finel, qu'on a Dash, le chien de Stéphane, qui est avec nous au standard. Merci Dash d'avoir composé le 3921. Visiblement, tu n'es pas content, je vous traduis. Oui, merci Mathieu de me donner la parole. C'est un véritable scandale. Quand je vois ce que Karl Lagerfeld a fait pour Choupette, j'ai la haine et je me dis que Stéphane, lui, n'a rien fait pour moi. En plus, il m'a donné un nom de lessive, c'est ridicule. Il a intérêt à me laisser la nue propriété de Tiron Gardé et la maison de Paris. Sinon, j'appelle le canard enchaîné pour révéler tous ses placements au Luxembourg. Non, Dash, tu vas trop loin. On a entendu votre colère. Décidément, Choupette suscite bien des jalousies. Et en termes financiers, des fantasmes, Sébastien Jondot, ça vous amuse ou ça vous agace ce débat sur l'héritage de Choupette?
Ça m'amuse.
Lui, ça l'aurait amusé, Karl, je pense.
Ouais. Bah, lui, il a tout mis en place pour que ça marche comme ça. Justement, au contraire.
C'est parfait.
C'est parfait. Ça a exactement marché comme il avait envie. Après, je pense que de toute façon, il aura quand même laissé un petit quelque chose pour qu'elle soit pas laissée pour compte. Je pense que Françoise, sans ça, déjà, elle n'aurait pas laissé toute seule.
Oui, de toute manière.
De toute manière. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'en arriver là. Mais bon, la laisser sur l'héritage, ça me paraît beaucoup de choses quand même.
Effectivement, ça paraît un peu beaucoup. Voilà, Stéphane,
c'est votre premier portrait de chat.
C'est mon premier portrait de chat.
Je suis surpris, moi, qu'on puisse faire un portrait de chat aussi bien.
Je vais vous le dire moi-même, aussi bien, je ne sais pas, mais faire un portrait de chat, déjà, je ne pensais pas, effectivement.
En tout cas, c'est 100% vrai.
C'est 100% vrai pour une.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Ils ont côtoyé Karl Lagerfeld de près, Pierre Balmain et Jacques de Bachère par le passé. Choupette, c'est vrai. Mais il y a un homme qui a côtoyé Karl Lagerfeld pendant 20 ans et jusque tout récemment, jusqu'à sa mort, il y a tout juste 2 ans, c'est Sébastien Jandot.
Sébastien, vous publiez « Ça va, cher Karl », un livre dans lequel vous racontez votre vie aux côtés de Karl Lagerfeld. On va en parler avec vous dans un instant. Vous allez pouvoir parler, sachez-le, Sébastien, n'ayez pas peur. Mais c'est Stéphane Bern qui aura le mot de la fin, parce que c'est contractuel, hein, c'est comme ça, c'est toujours lui qui a le mot de la fin. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane ?
À tes souhaits. Oui, à vos souhaits. C'est pour, si vous pourquoi, êtes très poli. Quand quelqu'un éternue, on dit ça ?
Très bien, là, nous le saurons. Et puis nous saurons aussi qu'on ne doit pas le dire, hein, dans les milieux
oui,
un
bah,
peu
dans
autorisés.
Certains milieux.
On ne fait pas référence
fait,
à ce genre de choses.
On fait partie de votre milieu.
Oh. Mais avant ça, nous remontons aux origines avec David Castello-Lopez. Aujourd'hui, les origines du sucre en morceaux. Quel rapport avec Karl Lagerfeld ? Aucun, mais c'est comme ça.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Karl, toujours, tu m'intéresses. Ils ont côtoyé Karl Lagerfeld de près. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre. On a parlé du passé, on parle maintenant quasiment du présent avec celui qui l'a côtoyé pendant 20 ans et jusqu'à la fin de sa vie, il y a 2 ans, Sébastien Jandot.
Oui, Sébastien, vous publiez « Ça va, cher Karl » aux éditions Flammarion. « Ça va, cher Karl », c'est ce que vous écriviez chaque jour à Karl Lagerfeld et il vous répondait oui toujours ou non parfois.
C'est ce que je lui écrivais en général le matin. Ouais. Oui. C'était pour prendre un peu la température, la température entre guillemets de sa nuit et de ce qu'on avait
son
à faire
humeur
et
son humeur, oui.
Pour commencer à anticiper ce qu'on allait faire ou pas faire dans la journée. Quoi.
Mais comment on devient la personne de confiance, la personne en qui, et je l'ai vu 100 fois, hein, vous étiez vraiment la personne en qui il avait le plus confiance.
On s'est rencontrés la première fois quand j'avais 15 ans, et je travaillais pendant les vacances scolaires pour la boîte de mon beau-père. Mon beau-père, j'avais la chance que mon beau-père ait une boîte de transport. Donc je travaillais là-dedans. Et c'est là, un jour, je suis arrivé sur un chantier, c'était au 51 rue de l'université. C'est comme j'explique dans mon livre, quoi. Je suis arrivé au château de Versailles, quoi. Et c'est vrai que ce jour-là, il nous a filé 500 balles de pourboire.
Ah oui, c'est chacun. Pareil, effectivement. Là, c'est du beau pourboire, là.
Donc, à l'époque, je parle en 90.
Ouais.
Mais c'est énorme. C'est plus qu'énorme. C'est dingue, même. Et je vais être amené à retourner voir Karl, à retravailler pour lui sur énormément de chantiers. Et ça va durer pendant 3 ans où je vais le fréquenter plusieurs fois par mois. Et de là, c'est comme ça que...
Il vous a proposé de travailler pour
pas
lui?
Pas du tout. Il m'a pas proposé. Et donc un jour, je me suis dit, écoute, franchement...
Qu'est-ce que j'ai à perdre?
Oui, voilà, j'ai rien à perdre, de toute manière.
Ce que
je vais lui dire,
on
était dans sa villa à Biarritz, on avait terminé un chantier qui avait duré plusieurs mois, donc il venait d'avoir cette maison, ça faisait 1 an qu'il était dedans, qu'il avait fait les travaux, on avait fait l'installation, le truc, ça avait duré des mois et des mois, bah, d'ailleurs, pratiquement 1 an même. Et c'est là, je lui ai dit, vous savez, je pourrais vous demander, j'ose pas, mais j'aimerais oser vous demander quelque chose. Et il me dit, bah, quoi? Je lui ai dit, bah, j'adorerais travailler pour vous.
Mais vous occupiez de tout sauf de la mode, en fait. Parce que vous gériez sa vie, en fait.
Ouais,
vous
ça,
étiez
c'est
la nounou.
J'irais pas dire qu'une nounou, mais c'était tellement énorme, tout ce que je pouvais faire pour lui. Je veux dire, au niveau volume de choses.
Stéphane disait que vous communiquez par petits mots. C'est quoi le petit mot le plus émouvant ou le plus drôle? Parce qu'on sait qu'il pouvait avoir beaucoup d'humour qui vous a laissé. Vous en avez conservé certains?
J'en ai conservé beaucoup, ouais. Bah, vous savez, Karl, c'est quelqu'un qui écrivait énormément. Donc ça veut dire que quand il pouvait vous envoyer une lettre juste pour vous dire bonjour, ça pouvait faire 10 pages.
Ah oui, d'accord.
Il
adorait
ça, c'était son truc. Mais il envoyait des lettres comme ça. Il écrivait des romans. Attention, je dis romans par rapport au volume de pages, à son entourage proche tous les jours. Donc s'il y avait une vingtaine de personnes, il pouvait écrire une dizaine de pages pour une vingtaine de personnes quand même autour de lui.
Mais on a l'impression que c'était une machine, Karl Lagerfeld, genre une intensité, une capacité de travail énorme.
Ouais, ça c'était ce qui était très impressionnant chez lui.
Il dormait parfois?
Ouais, non mais il dormait, il avait un sommeil assez régulier, ça pouvait lui arriver, il expliquait d'ailleurs qu'il pouvait se réveiller la nuit en ayant des idées ou des flashs et d'un seul coup se mettre à dessiner. Mais en général, il dormait bien 6 à 7 heures par nuit, quoi. Il avait un sommeil assez...
Il était fier d'une chose, c'est quand il a fait son régime, c'est de pouvoir dire partout, je fais maintenant la même taille que Sébastien.
Ouais, il y a eu... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est après le régime, donc on est en le régime avait commencé, je crois, en 99-2000, je sais plus, ça a duré à peu près vraiment 1 an pour qu'il il atteigne son nouveau poids et son nouveau personnage surtout. Et c'est vrai qu'un jour, je devais aller m'acheter des jeans, et il me dit, ouais, toi tu mets quoi comme jeans et tout, et j'ai dit, en taille américaine, je mets 31-32 ou 31.
Ah oui, là, c'est mince.
C'est pas si mince que ça, parce qu'en fait,
c'est mince.
Et il me dit, tu veux pas essayer de. Et ce jour-là, je suis allé chez APC. et j'ai acheté des jeans qui m'allaient en 31 et je m'en ai pris pour lui et lui aussi a
il est rentré dedans
oui, et à partir de ce moment-là il s'amusait à dire regardez je mets la même taille de jean que Seb mais après il a même descendu d'une taille puisqu'il mettait des 30
mais il a changé à ce moment-là, il est devenu une rockstar et c'est pas la même chose, vous avez travaillé pour quelqu'un il est devenu vraiment connu comme une rockstar.
Je pense que le
le
phénomène rockstar. Il faut savoir qu'il avait déjà presque 70 ans à l'époque.
Quand il s'est réinventé.
Je vous rendais compte, il a commencé une nouvelle vie.
Mais c'était un personnage qui jouait, enfin moi je le connais pas Stéphane, vous l'avez un peu connu.
C'était une marionnette, il s'amusait, c'était
quelqu'un juste de très spirituel.
On riait, chaque fois qu'on le voyait, on riait. Parce qu'il avait des phrases à l'emporte-pièce. Quand les japonaises dans les aéroports voulaient absolument, ne me touchez pas, je demande une chose, ne me touchez pas. Parce qu'elle voulait toucher les fesses.
Il aimait dire ça, c'est vrai qu'il y a, ça, je pense que c'est plus la légende Karl, ça. L'histoire des fesses.
Oui. C'est quelqu'un qui n'aimait pas montrer ses faiblesses en revanche. Ça, c'était quelqu'un qui verrouillait complètement. Vous étiez le seul à aller voir.
Après, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Ses faiblesses, elles sont arrivées plus ou moins avec ces histoires de maladies. Mais après, avant ça, il n'y en avait pas.
Là, on peut rendre hommage à l'entourage de Karl, dont vous, c'est que ça n'a pas filtré sa maladie. Moi, je me souviens quand j'ai appris, personnellement, effectivement, j'ai aucun lien avec Karl Lagerfeld, mais j'ai appris sa mort alors que je ne savais même pas qu'il était malade. C'est-à-dire que j'imagine que vous étiez au courant bien avant de la maladie et ça n'a pas filtré. Il a protégé ça.
Ça, c'était un travail qu'on a fait ensemble. C'était son choix. Il avait fait le choix, lui, de cacher ça à tout le monde et que je sois la seule personne avec ses docteurs qui soit au courant. Mais ça, c'était parce qu'il voulait pas dans. Il ne voulait pas qu'on crée de l'empathie. Il avait ce côté moins les gens vont s'apitoyer sur son sort, plus ça va lui permettre de rester qui il est et d'avancer encore plus fort. Karl, c'était une machine de guerre, c'était un espèce de TGV qui faisait le tour de la Terre en permanence, qui ne s'arrêtait jamais.
En tout cas, il y a ces mots aussi touchants. À la fin de toute fin du livre, vous écrivez « Vous étiez le Mohamed Ali de la mode, vous êtes tombé KO debout jusqu'au dernier moment au téléphone avec l'équipe de Fendi à Milan. D'autres fois, je vous ai vu dessiner une collection entière en 30 minutes. J'aurais aimé vous faire vivre jusqu'à 100 ans, mais c'est moi qui serais mort avant. » Le Mohamed Ali de la mode, je ne saurais mieux dire pour clôturer cette interview. En tout cas, merci Sébastien Jondot. Je rappelle votre livre, un journal de vos années de jeunesse passé avec Karl Lagerfeld. Ça va Karl, écrit avec, citons la journaliste, c'est Virginie Mouza, qui vient de paraître aux éditions Flammarion.
David Castello-Lopez arrive pour nous parler comment passer du décès de Karl Lagerfeld à ça, à l'origine du sucre en morceaux, surtout restez
avec nous. Je vais vous casser du sucre sur le dos.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Karl Lagerfeld n'aimait pas trop le sucre, mais nous avons justement choisi ce sujet. David Castello-Lopez adore le sucre, surtout en morceaux. Mais depuis quand peut-on consommer du sucre en morceaux?
Alors avec moi, vous avez un peu l'habitude des sujets chelous, mais là je dois dire que une chronique sur les origines du sucre en morceaux, même pour moi, c'est chelou. Pourquoi? Eh bien parce que ça veut dire que quelqu'un a inventé le sucre en morceaux. Or je trouve qu'inventer le sucre en morceaux, ça sonne vraiment comme inventer l'eau chaude ou inventer le gros bout de l'œuf. Vous voyez, on n'y croit pas vraiment. Mais en fait, si, le sucre en morceaux a été inventé, parce qu'avant il y avait quoi? Alors au XVIIIe siècle, si vous achetiez du sucre, c'était sous la forme de gros rochers coniques comme ça, de plusieurs kilos.
Pas pratique.
Et si vous vouliez en mettre dans le café, fallait attaquer ce rocher avec une pioche pour en détacher un morceau, puis casser encore ce morceau avec une pince jusqu'à temps d'avoir des morceaux de taille gérable pour votre café ou votre thé. Donc c'était long, c'était physique, c'était un peu relou. Ensuite, à partir du 19e siècle, il y a des marchands qui ont commencé à vendre du sucre déjà cassé. Mais il était cassé en morceaux de tailles différentes, dont certains ne rentraient pas dans les tasses. Alors il fallait les trempouiller un petit peu comme ça, puis les enlever. C'était encore relou. Mais tout a changé au milieu du 19e siècle en Moravie. Vous savez où se situe la Moravie?
Oui, bien sûr.
Oui, bah, préciser
c'est l'ancienne
quand même.
République tchèque, enfin Tchécoslovaquie.
Exactement, c'est une région qui est passée de main en main, mais aujourd'hui, effectivement, c'est une région de la République tchèque. Dans les années 1840, en Moravie, pardon, il y avait une dame qui s'appelait Juliana Rad. Juliana, elle était mariée au directeur d'une raffinerie de sucre qui s'appelait Jacob. Et un jour, en attaquant un de ces gros cônes en sucre avec un pic à sucre, Juliana, elle s'est coupée. Et elle allait voir son mari, elle lui a dit « Pourquoi tu fais pas des doses de sucre individuelles dont la taille correspondrait à juste ce qu'il faut pour une tasse de thé, hein ?» Je sais pas si elle dit connard, mais moi je pense qu'elle pensait connard. Et Jacob, il s'est mis au travail et il a fabriqué une presse spéciale. Et quelque part, entre 1840 et 1843, les premiers cubes de sucre uniformes du monde sont apparus. Mais le décollage du sucre en cube, il est venu que plus tard, 30 ans plus tard, avec Henry Tate. Henry, c'était un mania du sucre, qui est surtout connu pour avoir donné son nom à la Tate Gallery.
Non.
Et si. Et dans les années 1870, il a acheté le brevet d'une autre méthode pour faire des cubes en morceaux qui avait été inventée par un Allemand. Une méthode plus fiable et moins coûteuse que celle de Jacob Rad. Et à partir de là, les cubes en morceaux sont devenus la norme. Aussi parce que c'était l'Angleterre victorienne. Et pour les gens de cette époque, il y avait quelque chose d'à la fois très convenable, propre et moderne dans le fait d'avoir des cubes de sucre d'une forme si parfaite, si standardisée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, oui. Le comble du chic pour un morceau de sucre, c'est précisément de pas être standardisé, c'est d'être irrégulier, c'est qu'on sente sur lui l'imprévisibilité de la main humaine et le chaos jamais tout à fait domptable de la nature. Voyez. Et vous voyez, aujourd'hui, même dans les supermarchés maintenant, les sucres les plus chers, c'est précisément ceux qui sont comme ça.
C'est magnifique. Mmh. Et surtout demain, vous nous ferez le sucre en cœur. Moi, j'ai des petits. Les sucres qui sont en forme de cœur. C'est ma copine, elle achète ça.
La vraie tendance, c'est que les gens arrêtent de bouffer du sucre, surtout.
Oui, alors, mais Karl Lagerfeld, justement.
C'est surtout assez impressionnant. Ils ont pris du temps, là, quand même, pour se décider à les transformer en petits morceaux. Ou alors, ils devaient avoir d'autres choses à faire à cette époque-là, quand même.
Parce qu'on sort plusieurs siècles, quand même. Les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Un petit mot, Karl Lagerfeld, le sucre. On sait que donc, il y a eu ce régime, le sucre, il l'a un peu banni. Mais de temps en temps, il paraît qu'il vous demandait de s'arrêter devant chez McDo quand même pour se faire un petit plaisir.
Non, mais le sucre, il l'avait vraiment banni de son alimentation. Mais complètement. Ça, c'était un truc qu'il a gardé pratiquement toute sa vie. Enfin, toute sa période de vie avec moi, en tout cas. Quand il disait pas de sucre, c'était pas de sucre ajouté.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai que pendant pas mal d'années, d'ailleurs, c'est marrant de revenir là-dessus, de faire une petite anecdote, parce que des crises de nerfs qu'il a pu me faire pour une histoire de Canderel.
C'est-à-dire?
Parce qu'à l'époque, on emmenait du Canderel jusqu'aux États-Unis dans chaque voyage. Et on pouvait pas le. En fait, plusieurs fois, je l'avais oublié à l'hôtel ou quand on allait sur un shooting.
Parce qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de Canderel, il n'y avait pas d'équivalent.
Non, enfin, il y avait d'autres choses, mais il n'aimait pas.
Ouais.
Donc, on l'emmenait et tout. Et ça m'est arrivé une fois, je me rappellerai toujours, on était à Los Angeles. On avait oublié le sucre et on avait essayé de trouver un autre espèce
une solution.
De complément qui ressemble à du sucre. Et on l'avait mis, mais l'aspect physique était le même que le Canderel.
Il n'est pas tombé dans le panneau.
Ah, non, pas du tout. On a fait une crise à cette époque-là. J'étais obligé d'aller chercher à genre 45 minutes de route le sucre à l'hôtel.
Ah, il avait quand même. Donc ce côté diva n'était pas seulement joué, il l'était quand même.
Non, il n'était pas du tout, mais il avait certains trucs. Bah, par rapport à son régime, il faisait attention à sa personne. C'était des choses qui étaient vraiment importantes pour lui.
Regardez, mais ouais, un McDo, c'est. Attention, plus de sucre.
Et ouais, plus de sucre. Stéphane, moi je suis dans du 33. Ça va?
Ah oui,
oui, 32,
c'est pas trop loin encore.
Ah ouais, ça va.
Ah oui, c'est impressionnant.
Nous touchons à la fin de cette émission. Oui. Or, que se passe-t-il à la fin de cette émission? C'est la chronique, j'ai envie de dire, la plus attendue.
Non, faut pas
celle de Stéphane Bern, le mot de la fin, l'histoire d'une expression aujourd'hui, Stéphane.
À tes souhaits, ou à vos souhaits, pardon.
D'où ça vient? Et faut-il encore le dire, surtout?
Ça, je vous laisse juger.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'histoire, c'est aussi l'histoire des mots et des expressions. Et pour ça, on a créé Stéphane Bern, qui n'a pas son pareil pour vous révéler. Stéphane qui lève les yeux au ciel quand je fais des lancements trop longs.
Ouais. Non, c'est pas
l'histoire.
Vous dites tellement de bêtises sur mon compte, mais vous créez une légende, vous savez.
Je crée votre légende, jour, Stéphane. Vous m'en remercierez peut-être.
Il en restera, Lina, en tout cas, gardera des enregistrements ridicules. Mathieu, est-ce que je peux faire appel à vos talents de comédien?
Non, bien sûr.
Vous pouvez me faire un faux éternuement?
Bien sûr. Atchoum!
À vos souhaits, Mathieu. Tiens, mais à vos souhaits, d'où vient cette expression?
Oh oui, mais j'imagine qu'on souhaite la bonne santé, un prompt rétablissement à celui qui vient d'éternuer.
Oui, mais je vais me permettre d'en dire un peu plus. Quand on éternuait durant l'Antiquité, ce n'était rarement annonciateur de bonnes nouvelles. Pour conjurer le sort, on s'en remettait aux dieux. On disait que Jupiter te conserve, qui est rapidement devenu que Dieu vous bénisse. Une croyance a longtemps perduré. On a longtemps cru que l'âme des gens était dans leur corps et qu'éternuer pouvait expulser l'âme de soi. Dès lors, on mettait sa main devant sa bouche pour l'en empêcher, tout comme éviter qu'un démon entre par la même voie. Dans la Grèce antique, si on éternuait, c'était un esprit divin qui passait. À vos souhaits, était une façon polie de saluer l'esprit divin. Au Moyen-Âge, l'un des premiers symptômes de la peste était de tousser, d'éternuer, un peu comme la Covid. Au passage, entre 1347 et 1352, c'est 50% de la population européenne qui est décédée. Vous imaginez le Olivier Véran de l'époque. Non. On comprend que l'habitude a vite
été
prise.
Il aurait été beaucoup sur BFM TV.
Oui, on comprend que l'habitude a été prise de conjurer au mieux le sort en disant à vos souhaits, celui effectivement de ne pas tomber malade ou plutôt de guérir vite. Allez, pour finir, je ne résiste pas à vous à partager avec vous ce bon mot de Léo Zitrone. La popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir des centaines de lettres le lendemain où il est écrit à vos souhaits.
Eh bien écoutez Stéphane, c'est très beau de finir comme ça sur une citation de Léon Zitrone, d'autres finissent sur une citation de Socrate. Vous, c'est Léon Zitrone, ça vous marque sociologiquement, c'est intéressant. Notre spécial Lagerfeld, c'est terminé. On a ri, on a pleuré aussi avec le portrait de son grand amour Jacques de Bachère. Puis l'émotion a culminé évidemment avec Sébastien Jondot quand j'ai évoqué sa chatte Choupette. Beaucoup d'émotions, merci d'avoir été avec nous et on rappelle votre livre « Ça va, cher Karl », publié chez Flammarion. Quel est le souvenir que vous garderez de lui s'il n'y en avait qu'un, enfin, vraiment, la dernière image que vous avez de Karl Lagerfeld?
C'est ses crises, son humour, son tout, il n'y a rien à...
Stéphane, vous sens ému aussi?
Ah, mais moi, j'adorais Karl. Donc
Oui, on s'est croisés énormément de fois, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc,
et c'était quelqu'un qui était... Je vous dis, c'était d'abord une gentillesse, mais désarmante. Les gens le voient comme Kaiser K. Mais en fait, il était, vous pouvez pas savoir, d'une générosité.
D'ailleurs, il aimait dire que c'était lui, enfin, il aimait dire que j'étais le, enfin, il aimait faire en sorte et il disait que je suis le méchant et lui, il était le gentil. C'est une réalité. C'était vrai, mais moi, j'étais pas méchant non plus. J'étais obligé de le faire pour lui. C'est autre chose.
Eh bien écoutez, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous Sébastien Jondot, on rappelle votre livre Ça va cher Karl. Demain, vous savez déjà de quoi on va parler Stéphane ou pas du tout?
Oui, demain on réunit les personnages qui se sont eux-mêmes unis pour faire du mal. Oui, couple et malfaiteurs. Ah. C'est le thème de notre émission de demain avec Bonnie Parker et Clyde Barrow.
Évidemment.
Bonnie and Clyde. Raymond Fernandez et Martha Beck.
Et Wolfgang et Hélène Beltracci, vous ne les connaissez pas encore?
Non.
Demain vous allez les détester.
Oh, c'est bien dit ça. Alors à demain Mathieu, j'ai hâte. À demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.